BFM Bourse, on refait la séance.
Un ventre, une main, mais a-t-il une âme, le marché? Cette question, on va vous la poser à vous, Franklin. Franklin Pichard, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Pour Kipling Finance, vous êtes prêt, hein? Vous avez préparé une réponse. Dans quelques minutes, on vous posera la question. Benjamin Rousseau aussi nous accompagne, gérant pour Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue également. Et puis donc, Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. D'abord, le marché global, on entre dans la phase de publication des résultats, ce sera surtout la semaine prochaine avec LVMH qui va ouvrir le bal, ce sera mardi. Est-ce que le marché arrive sur cette zone de publication, cette phase de publication fragilisée? Est-ce que vous le sentez désormais plus fragile, le marché, Franklin?
Oh oui, certainement. Je pense qu'il nous laissait un peu perplexes quand il caracolait encore jusqu'à il y a une dizaine de jours. Typiquement, la correction qu'Étienne a décrite tout à l'heure, depuis le début de la semaine, me semble tout à fait normale, salutaire. On avait tellement tendu les cours qu'aujourd'hui, on comprend qu'à la veille de cette saison des publications, avec des indicateurs des banquiers centraux qui sont mitigés, en tout cas du côté des États-Unis, eh bien oui, on comprend que les marchés corrigent aujourd'hui, c'est vrai.
Bon, on a quand même une banque en tête, c'est pas tous les jours. Société Générale, en plus, c'est encore moins tous les jours. Le titre signe la plus forte hausse du CAC, quand même, faut le souligner, plus 2,1%. C'est un peu la grande braderie, là, du côté de la Société Générale. Ils ont annoncé un projet de cession hier pour plus d'un milliard d'euros. Et encore un aujourd'hui pour plus de 700 millions d'euros. Pourquoi ces cessions? Et est-ce que ça transforme le profil du groupe ou son potentiel en bourse, Franklin?
Oui, si je peux me permettre, vous avez posé cette même question hier et j'étais, j'écoutais la radio et je bondissais en me disant mais il faut peut-être être plus clair. Je crois, moi, ce qu'on se raconte dans les salles de marché, c'est clairement le marché salue la nouvelle direction, la nouvelle gouvernance. Au-delà des cessions, les cessions sont la concrétisation de ce qu'on a attendu pendant des années qui n'a pas été fait par Frédéric Oudéa. Aujourd'hui, il y a un autre profil de la valeur. Aujourd'hui, les marchés, les investisseurs considèrent que c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Alors c'est vrai, comme ça a été dit hier et comme ça peut être dit et comme j'ai pu le dire aussi, on préférait BNP. BNP, c'était la tranquillité, c'était une expression que vous aimez bien, c'est le couloir de nage, on sait où on va. Et bien là, sur Société Générale, c'est vrai que c'est un peu contrariant, c'est un peu à rebrousse-poil. Et effectivement, je pense que c'est à regarder. Et j'ai vu des objectifs de cours à 33 euros. Donc, on a véritablement un potentiel d'appréciation qui reste conséquent.
Donc, pourquoi pas Société Générale? Benjamin, vous le suivez aussi, ce secteur financier et bancaire? Alors, vous suivez davantage les petites et moyennes valeurs, mais il y a du grain à moudre aussi dans l'univers financier via les small et mid cap?
Oui, tout à fait. Dans l'univers des small et mid cap, plutôt en Europe, il y a des belles valeurs. Donc, nous, on reste exposés à ce secteur-là, notamment à des vraies valeurs, on va dire, bancaires de taille moyenne. Je pense en particulier à BAVAG en Autriche ou à Bank Inter en Espagne. Et sinon, on essaye de trouver aussi, j'ai envie de dire, des valeurs un petit peu hybrides qui sont, entre guillemets, des banques, mais pas que. C'est-à-dire qui ont une activité aussi qui leur permet de pas simplement être une banque classique. Un exemple, on a une très forte conviction chez Edmond Rothschild AM sur Banca Pharma Factoring, une société italienne, BFF pour les intimes, qui est le spécialiste italien de l'affacturage. Pour notamment auprès des administrations publiques et du système hospitalier italien. C'est une très belle société. Depuis son IPO il y a quelques années, ils ont reversé à peu près 100% de leurs bénéfices aux actionnaires. Et c'est une société qui a finalement une histoire de croissance qui est assez intrinsèque. C'est-à-dire c'est le taux de pénétration de l'affacturage qui tend progressivement à augmenter en Italie, mais aussi partout en Europe. Et puis, vous avez aussi un effet réglementaire qui leur est très favorable. Il y a une directive en Europe qui est en train d'être mise en place pour réduire les retards de paiement. Donc, voilà, il y a un environnement qui est extrêmement favorable à cette société, qui a une licence bancaire, donc qui a aussi une activité bancaire un petit peu plus classique, mais qui a finalement aussi cette croissance structurelle qui nous paraît très, très intéressante.
Côté à Milan, on rappelle le nom de ce groupe, cette valeur?
BFF.
BFF, voilà. BFF. Donc éligible au PEA, a priori, pour
tout
ceux qui veulent diversifier éventuellement.
Exactement.
L'idée de diversification. La semaine prochaine, on va rentrer dans le dur des publications. LVMH annoncera ses résultats mardi. On la sent comment cette saison pour le luxe et pour LVMH, par exemple, Franklin?
Un peu compliqué, parce que la base de comparaison est quand même très élevée. On a un premier trimestre dont on sait que ça n'est pas reparti dans tout ce qui était vin et spiritueux. En fait, beaucoup d'analystes avec qui on parle disent on n'aura pas l'effet waouh sur cette publication. On va avoir un premier trimestre qui devrait être plutôt confortable, mais sans... ça devrait pas casser la baraque. Donc,
et du coup, compte tenu des valorisations, vous dites si ça casse pas la baraque, le marché risque de sanctionner pour le coup.
Oui, on l'a déjà vu. Hein. On a déjà vu qu'LVMH pouvait être très lourdement sanctionné un premier jour de publication. Après, ça repartait, mais c'est vrai qu'on a vu le titre décrocher de plus de 10% un jour de publication. Alors, on n'en est pas là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué d'annoncer des choses qui boostent la valeur mardi prochain.
Benjamin, dans les petites et moyennes, il y a des bons plays, comme on dit dans le marché.
Oui, alors, ce qui me marque en amont de cette saison de publication des valeurs du luxe, c'est la très grande divergence qu'on a dans les attentes, dans les taux de croissance qui sont attendus par les analystes au premier trimestre. En gros, ça va de moins 20%, notamment la marque Gucci, donc le groupe Kering, jusqu'à plus 15, plus 20, plus, je crois que les analystes doivent attendre plus 19 ou plus 20% pour la marque Moncler, Brunello Cucinelli, ça doit être aussi du plus 17 ou plus 18. Donc on a vraiment un grand écart entre certains acteurs qui vont être vraiment... pénalisé par un environnement qui n'est pas forcément très bon ou par un attrait de leur marque qui n'est pas forcément très fort, et puis d'autres acteurs qui vont continuer à marcher sur l'eau. Je parlais notamment de Brunello Cucinelli, de Moncler, qui nous semblent toujours être relativement des safe havens, on va dire, dans ce secteur-là.
Bah, c'est intéressant pour tous ceux qui nous suivent, qui cherchent des idées de pépites comme ça. Vous nous en livrez au fur et à mesure, au fil des questions, effectivement, et avant la semaine prochaine, les premières publications dans le segment du luxe LVMH mardi soir. Le CAC 40, en attendant, est en repli. Ce soir, il perd 0,18%. Et sur la semaine, le CAC aura perdu 0,8%. On préserve quand même les 8000 en clôture ce soir. 8018 points pour l'indice CAC 40. Le CAC n'est pas très loin, toujours pas très loin de ses records historiques. Alors que le contexte géopolitique est quand même hyper tendu. L'Ukraine, évidemment. Le Proche et Moyen-Orient, ça se tend de plus en plus. Hein, le renseignement américain, c'est pas rien quand même. Le renseignement américain nous parle d'une possible attaque massive et directe de l'Iran sur Israël. C'est assez énorme. On verra. On est toujours dans le bruit. Mais le risque est là. Et pourtant, les actions sont toujours proches de leur plus haut. Le marché est-il insensible? C'est une question qu'on se pose ce soir. Les marchés sont-ils insensibles? Et plus profondément, les marchés actions manquent-ils d'âme?
L'âme, le siège de l'activité psychique et des états de conscience. Les dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment le moi profond.
C'est ça l'âme. Le marché actions a-t-il un moi profond et une âme? Franklin.
En ce qui me concerne, je serais assez catégorique. Non, le marché n'a pas d'âme. En revanche, il a des émotions, et heureusement, puisque ça crée cette diversité et cette volatilité. Mais non, typiquement, j'ai jamais vu avoir le marché avoir une âme. Mais il a
des états d'âme.
Et il est, voilà, des émotions, des états d'âme, mais je ne pense pas qu'il ait d'âme au sens propre du terme.
Le marché, ce ne sont que des maths, des chiffres et des algorithmes à vos yeux. Il y a de l'émotion dans le marché. S'il y a de l'émotion, c'est qu'il y a de l'humain derrière, et dans chaque humain réside une âme. En l'occurrence, on voit que, c'est vrai, les indices actions sont toujours proches de leur plus haut malgré le risque géopolitique. Mais sur d'autres classes d'actifs, on voit la peur qui monte. Enfin, je sais pas comment vous l'interprétez. L'or, par exemple, l'once d'or, ce soir, est à plus de 2 400 $.
Oui.
Voilà, le pétrole qui monte. Le VIX aussi, l'indice de volatilité qui remonte un petit peu. On a plus de 17 ce soir. Est-ce que là, on a des petits signaux de battement de cœur qui accélèrent dans le marché?
Oui, typiquement, le VIX est un indicateur assez fiable qui nous permet d'appréhender le niveau de volatilité du marché et donc de l'émotion des investisseurs. C'est vrai que c'est un moyen de réguler, de comprendre un petit peu les choses dans ce domaine.
Benjamin.
Alors je ne sais pas si les marchés ont une âme. En revanche, vu avec le prisme des petites et moyennes valeurs, je peux vous certifier que les marchés sont quand même assez ingrats depuis 18 ou 24 mois sur ce segment des petites et moyennes valeurs. En dépit de fondamentaux qui restent très bons, force est de constater que les investisseurs, les marchés dans leur ensemble ont plutôt boudé cette classe d'actifs qui garde encore tout son attrait. Donc,
pour le coup, sans pitié le marché là, vis-à-vis des small and
medium. On espère un réveil. En tout cas, vu dans le rétroviseur, effectivement, sans pitié, mais la roue peut tourner.
Le marché a une main, la main invisible du marché, le marché a un ventre. Potentiel, ce qu'ont dans le ventre les différentes classes d'actifs dans le marché. Mais le marché a-t-il une âme? Cette question, elle reste ouverte. En tout cas, l'once d'or progresse. 2 409 $, on le rappelle ce soir, l'once. Justement, l'univers des petites et moyennes valeurs, vous sentez qu'on est sur le début d'un vrai réveil cette fois-ci ou pas? La collecte revient aussi sur les fonds small and mid. Est-ce que vous y croyez davantage, par exemple, que fin 2023, Benjamin?
C'est difficile à dire. On avait vu effectivement en fin d'année le retour de la collecte sur cette classe d'actifs. Les signaux, on va dire, sont un peu plus mitigés en ce début d'année. Donc, c'est difficile vraiment de voir une tendance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un très fort vent de décollecte depuis maintenant 6 ans, donc en gros depuis 2018, sur cette classe d'actifs. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est un petit peu à l'os, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement aller plus bas en matière de décollecte. Mmh. Beaucoup d'allocataires sont sortis purement et simplement de cette classe d'actifs depuis déjà pas mal de temps. Donc, est-ce qu'on peut faire pire? Je ne pense pas. Maintenant, Gilles, il faudra vraiment que l'appétit au risque revienne.
Gilles Santacreux nous appelle, je suis obligé de vous interrompre. Effectivement, Gilles, depuis boursiercoté.com, parce que dans cet univers des petites et moyennes valeurs, Gilles, d'un point de vue technique, vous en repérez une. Alors, pour le coup, c'est Trigano. Il y a peut-être là, par exemple, un potentiel. C'est déjà une belle valeur, d'ailleurs, Benjamin Trigano.
C'est
vous l'aimez bien.
Une excellente valeur.
Effectivement, techniquement, encore du potentiel ou pas, ce Trigano, en l'occurrence, Gilles?
Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Trigano fait partie de ces valeurs qui ont connu une phase de consolidation qui surperforme un petit peu ce qui se passe sur l'indice. Tant que l'on est au-dessus de 156 euros, bon là on est un petit peu en train d'attaquer cette valeur, on peut avoir un relais sur une impulsion que l'on a eue à la fin du mois de mars et qui pourrait nous amener justement vers une accélération du mouvement haussier en direction des 165 voire plus, donc pour une accélération. Le fait que cette valeur ait résisté alors que le contexte soit difficile prouve qu'il y a une force intrinsèque qui pourrait donc donner un relais à cette phase de hausse.
Pourquoi pas Trigano? Il y a une autre mid-cap là qui remonte un petit peu, en tout cas c'était le cas en séance, puis finalement en clôture la baisse. Forvia qui nous annonce une co-entreprise en Chine avec un acteur chinois. Alors autant nos constructeurs automobiles craignent la déferlante chinoise, les véhicules électriques chinois, autant nos équipementiers ont peut-être un coup à jouer en s'intégrant, créant, multipliant les co-entreprises avec les acteurs chinois de l'électrique. Est-ce que vous voyez sur les équipementiers auto un peu plus de potentiel se construire désormais, Franklin?
Moi, je suis assez réservé sur les équipementiers et on le voit dans leur performance, que ce soit depuis le début de l'année, sur un an ou sur deux ans. Le seul, à mon avis, qui a grâce à mes yeux, c'est Michelin. En ce qui concerne les autres équipementiers, ils ont énormément à faire pour rattraper leur retard sur l'électrification des véhicules. Aujourd'hui, on est véritablement très très en retard, les valeurs sont mal aimées, leur performance depuis le début de l'année n'est pas bonne. Je continue malgré tout de privilégier encore l'automobile plutôt que les équipementiers.
D'accord. Benjamin, prudent sur l'auto ou...
Oui, on est globalement assez réservé sur le secteur. Le secteur finalement manque de momentum et encore sur le premier trimestre. Oui. Pas s'attendre.
À Renault, c'est pas mal quand même, plus 40 depuis le début de l'année. Il y a des.
Je parlais enfin là du marché du marché automobile mondial qui va être encore, je crois, les attentes c'est 0 ou moins 1% pour la construction, enfin le nombre de voitures produites dans le monde.
Merci messieurs. Benjamin Rousseau, gérant pour Edmond Rothschild Asset Management, Franklin Pichard pour Kipling Finance étaient nos coéquipiers pour vous aider à vous forger une idée, le potentiel des marchés, les publications qui approchent la semaine prochaine. Aux États-Unis, les banques ont commencé à publier. Ah, c'est pas brillant. JP Morgan perd 4% en ce moment à Wall Street. On remercie aussi Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Et puis on a d'autres valeurs qui reculent à Wall Street parce que la Chine manifestement envisage d'interdire l'usage des puces étrangères dans l'univers des télécommunications d'ici 2027 pour tout l'univers des télécommunications sur le territoire chinois. Du coup, Intel et AMD, les deux géants américains, plongent à Wall Street -3,5% chacune. D'après le Wall Street Journal, effectivement, la Chine compte interdire l'usage des puces étrangères dans l'univers des télécommunications d'ici à 3 ans.